Seigneur, ya solo yo bongi na lokumu. Nous voulons bénir ton nom, te glorifier parce que tu en es digne. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donne-nous de ta parole. Que rien ne vienne à, Seigneur, obstruer le chemin de ta parole. Je te prie que le cœur soit sensible, le cœur se dispose à recevoir ta pensée. Nous disons non à l'incrédulité. Nous disons non à l'opposition. Seigneur mon Dieu, d'où qu'elle puisse venir, l'opposition à la parole. Seigneur, qu'il n'y ait rien qui interfère entre le messager et ton peuple, entre le message aussi et ton peuple. Donne-nous de recevoir ta parole comme une semence et que celle-ci puisse germer dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons amen. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Nous voulons continuer avec notre thème en lieu sûr. Il est important que chacun d'entre nous puisse se rassurer qu'il est entré en ces lieux et qu'il y demeure. Demeurer en ces lieux-là. Notre texte, c'est Éphésiens chapitre 2. Bien entendu, comme d'habitude, nous aurons d'autres textes qui vont venir. Éphésiens chapitre 2, du 4e au 7e, du 11e au 3e verset, et nous lirons aussi le 19e. Ça fait, je ne sais pas, c'est le 40e, 5e dimanche ou 4e dimanche. 4e dimanche. Si ce n'est pas le 5e, c'est le 4e. Commençons la lecture carrément au premier. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ensemble, l'Église, nous disons amen. Les versets 11 et le verset 13, jusqu'au verset 13, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Le verset 19 dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Quelqu'un dit amen. Mais maintenant en Jésus-Christ, pas en dehors, mais en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Mais quand vous poursuivez la lecture normalement, sans vous sauter, verset 14 dit, car il est notre paix, donc Jésus, il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Alléluia. Donc, dans ce texte, on parle de ce qui était loin et de ce qui était proche. Ce qui était proche, nous l'avons déjà dit, ce sont des Juifs. Et ce qui était éloignés, c'est vous et moi. C'est des nations, les gentils, les païens. Quand on parle de païens, dans ce contexte, il est question de tous ceux qui sont hors juifs. Parce que le juif est un peuple choisi de Dieu. Il les a choisis non pas pour avoir fait quelque chose de bien, pour avoir fait quelque chose de spécial. C'est tout simplement l'élection de Dieu. Je l'ai choisi, point. Oh, amen, amen. Il l'a choisi, Israël, pour se révéler au monde. Amen, amen. Dieu a choisi Israël. J'en discutais un peu avec mon fils au téléphone. On restait très, très longtemps. On parlait des événements qui se vivent dans le monde, l'attitude d'Israël par rapport aux Palestiniens et les bombes qu'on envoie, même dans les écoles. Et puis on voit un enfant, une fillette de 6 ans qui meurt sous les bombes. On me dit, mais est-ce que c'est juste ce que les Israéliens sont en train de faire? Aujourd'hui, ce sont les Israéliens, autrefois les Israélites. Donc, est-ce que c'est juste? Vous ne voyez pas? J'ai dit, je constate. Si je peux parler avec les Israël, je donnerai un conseil. Faites quand même attention, mais seulement je ne m'en prends pas à Israël. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu l'a choisi sans tenir compte qu'il ait bien fait ou mal fait, mais Dieu l'a choisi. Amen. Et Dieu dit, celui qui bénira Israël, il sera béni. Celui qui maudira Israël, il sera maudit. Moi, je fais le constat. Je ne discute pas avec Dieu. Je n'entre pas en guerre avec Dieu. Je constate. Mais Israël, c'est vrai, il y a beaucoup de choses dont, quand je regarde, je ne l'approuve pas. Je disais même à mon fils, tu sais que les Israéliens sont des magouilleurs dans les affaires. Beaucoup, pas tous. Mais il y en a beaucoup qui sont des magouilleurs. Mais ils sont reconnus comme étant le peuple de Dieu. Mais ils sont magouilleurs. Ils sont dans des magouilles, dans les... Mais moi, si je dois donner conseil, je les donnerai conseil, mais hein, après, je les bénis. Je les bénis parce que je dois les bénir, parce que je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Dieu a déjà dit que celui qui bénira Israël sera béni, mais celui qui maudira Israël sera maudit. Voilà, je constate. Oh, amen. On est resté longtemps, longtemps au téléphone, en train de discuter sur ce... en train de partager sur ces choses. Ils étaient prêts, nous étions éloignés. Mais les deux sont appelés à entrer en Christ. Amen. Et là, on forme un seul homme, un homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est l'Église. Amen, amen. L'homme nouveau, c'est l'Église. Paul dit que nous tous aussi, nous étions dans cette mauvaise vie-là. Et c'est pourquoi le dimanche passé, je disais, tu conjugues au passé ou au présent cette mauvaise vie. Aujourd'hui, tu diras, tu vis dans le péché, ou bien tu dis, j'étais autrefois dans le péché, mais Jésus-Christ a sauvé ma vie. Parce que, bien aimé, nous tous, nous naissons pécheurs. Aucun n'est justifié, aucun n'est enfant de Dieu. Nous naissons des créatures de Dieu, mais séparés de Dieu. Il y a un mur de séparation, un mur d'inimitié. Et dans 1 Jean, Dieu dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il est en inimitié avec Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. C'est ce que nous étions. Plaise à Dieu que tu parles à la manière de Paul. Nous étions. Amen. J'étais de leur nombre. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es sorti de ce côté-là? Ou est-ce que tu vis encore dans le péché? Et quand il arrive au verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Ah, mais Dieu, lui qui est riche en bonté, qui est riche en pitié, riche en miséricorde, c'est lui qui est l'auteur de ces changements-là. Je l'ai dit aussi la fois passée. Dieu est l'auteur du changement qui s'opère dans l'homme. Il était autrefois esclave du péché, mais la parole de Dieu, Jésus-Christ, vient et transforme les cœurs de cette personne. Plaise à Dieu que nous ayons des cœurs transformés. Plaise à Dieu que lorsque nous nous assemblons en ces lieux, nous ne constituons pas une assemblée de malfaiteurs, une assemblée de tricheurs, mais que nous puissions non pas nous réunir pour devenir pires, mais nous réunir pour devenir meilleurs. Plaise à Dieu, bien-aimés, que nous puissions constituer une sainte assemblée en cet endroit. Regardez, rentrons à nous-mêmes, dans quel état se trouvent nos cœurs? dans quel état se trouvent nos cœurs. Dieu est l'auteur de ces changements. Nous avons dit qu'il met sa miséricorde en action, il met sa pitié, sa bonté en action, en ne nous imputant pas nos péchés, c'est-à-dire il ne nous traite pas comme nous l'aurions mérité. Quelque part, il est dit dans la parole de Dieu que si tu nous traitais selon nos iniquités, qui subsisterait devant toi? Qui subsisterait devant toi si tu nous traitais selon nos iniquités? Qui peut subsister devant toi? Et sa miséricorde est dictée par son grand amour. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, c'est ce qui est dit au verset 4, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, bien-aimés, il nous a aimés d'un grand amour. À cause du grand amour dont tu nous as aimés. 1 Jean 3, 1 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons les enfants de Dieu. Voyez de quel grand amour Dieu nous a aimés. Il nous a aimés comme il a aimé le Christ. Comme il a aimé le Christ. Et que disait-il concernant son Christ? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute, pas une partielle, mais toute mon affection. Amen. Et il est dit aussi de quiconque entre en Christ. Il place en lui toute son affection. Tu es bien-aimé, affectué de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Considère-toi ces justes titres. Et quand on est conscient qu'on est bien aimé de Dieu, on ne vit pas n'importe comment. On ne vit pas sa vie au rabais. Non, on ne vit pas n'importe comment. Je suis bien aimé de Dieu. Quel titre? Bien aimé de Dieu. Tu es connu de Dieu. Alléluia. Tu fais l'actualité dans les cœurs de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dernièrement, mon épouse, quand je crois qu'il a parlé à un des enfants, il dit, moi, c'est moi qui fais l'actualité dans les cœurs de votre père. Elle fait l'actualité dans mon cœur. Amen, amen. Quand je parle des choses comme ça, je ne regarde pas généralement à droite. Je regarde là. Elle fait l'actualité dans mon cœur. Mais bien-aimé, toi et moi, nous faisons l'actualité dans les cœurs de Dieu. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Mais est-ce que nous réalisons ce titre que nous portons? Nous sommes le bien-aimé de Dieu. Est-ce que nous faisons la fierté aussi de Dieu? Nous sommes le bien-aimé de Dieu, mais est-ce que nous faisons sa fierté? Nous ne devions pas mener notre vie au rabais. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Appelé enfant de Dieu. Waouh! Appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas dans cette position, quelquefois, ils disent vous êtes des prétentieux. Quand vous dites non, je suis enfant de Dieu, je suis sûr que j'irai au ciel. Oh, c'est de la prétention. Ils disent oh, tiens, c'est de la prétention. Il n'y a que Dieu seul qui connaît et qui va aller au ciel. Pourquoi? Au fait, eux, ils ne sont pas sûrs qu'ils iront au ciel. Si tu n'es pas encore sûr que tu iras au ciel, tu es en danger. C'est un sujet qui se règle ici avant que tout ne s'arrête dans ta vie. Ça doit être réglé maintenant et tout de suite. Être sûr que tu es candidat de Dieu. Tu as été élu par Dieu pour entrer dans son ciel. Ça se règle ici. Et quand Dieu l'a réglé, toi aussi tu le sais. Il dit, l'esprit du Fils crie à moi, Abba, Abba Père. Amen. Et là où est le Père, c'est là que tu seras. Jésus-Christ disait quoi dans Jean 14? Il dit, il y a plusieurs... Il dit que d'abord votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et puis il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Quelle bonne nouvelle! Il dit, écoutez, tranquillisez-vous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Hein? Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Donc il dit, je m'en vais vers le Père, vous préparez une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous. Ah, j'ai dit à l'église, il va revenir vers nous. Il a fait la promesse, il va revenir. C'est pourquoi je disais à l'intro du culte que bientôt il va venir. Alléluia. Il est allé nous préparer une place. Et il dit qu'il reviendra nous chercher dans ces chapitres de Jean 14. Il dit, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh! Là où il est, nous allons y être également. Mais maintenant, déjà, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Mais concrètement, il viendra nous chercher. Bien-aimé, ne ratez pas ce rendez-vous. Ça ne va pas se passer à Mayamaya, ni à Njili, ni à Zaventem. Non. Où est-ce qu'il va nous enlever? Avec quelle navette il va utiliser? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de navette. Nous serons transformés en un clin d'œil. Nous aurons un corps glorieux. Et comme il a été enlevé, nous serons aussi enlevés. Et nous irons à sa rencontre. Quelqu'un dit amen. Oh, alléluia. Quelqu'un se mettait à réfléchir. Comment Dieu va faire pour enlever des multitudes? Pas seulement ici au Congo. Pas seulement en Afrique. Pas seulement en Europe. Partout il y a, où il y a des chrétiens. Aujourd'hui, l'évangile a pénétré puissamment en Corée. Et là où il n'y avait pas d'évangile avant, il y a maintenant, je crois, une vingtaine d'années, 30 ans en arrière, l'évangile est installé puissamment. Nos frères là avec des yeux un peu comme ça, comme on voit aussi quelques voitures là, donc les Japonais, les Coréens, ils sont dans la foi. Oh, amen, amen. Dieu va faire comment pouvoir enlever ces multitudes de chrétiens? Comment il va le faire? Il va commencer à aller maison après maison? Non. Quelqu'un a réfléchi, il disait, je crois que Dieu va forcément appeler l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, vient. Et tous ceux en qui habite l'Esprit de Dieu partiront avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Nous irons à sa rencontre. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Et dans Romains 5, 8, il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais quand Jésus-Christ est mouru à la croix de Golgotha, il n'y avait personne qui avait mérité que Christ puisse mourir pour lui. La Bible déclare, je crois toujours dans ce passage de Romains 5, si je ne me trompe pas, où il est écrit qu'à peine mourrait-on pour un homme de bien, mais Christ est mort pour les impies que nous étions. Nous n'étions pas des justes. Il n'a pas attendu que nous devenions justes pour qu'il puisse mourir pour nous. Il n'a pas attendu que nous puissions devenir sages pour qu'il puisse mourir pour nous. Non. Il est mort quand nous n'étions pas sages, quand nous n'étions pas intelligents. Car l'intelligence, bien aimé, c'est la crainte de Dieu, c'est voilà le commencement de l'intelligence. Craindre Dieu. Dieu prouve son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la nature de l'amour, de l'amour dont Dieu nous a aimés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans la Bible expliquée, il est dit que dans notre union avec Christ, avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Nous avons été promis, nous avons été élevés, nous avons été placés dans une position de règne et de domination. Ça, je l'ai dit aussi donc la fois passée. Nous avons été placés en lieu sûr. En lieu sûr. Voilà pourquoi nous avons aussi chanté en disant, dites à mes ennemis, je suis na nikotinia, ya mwamba Yesu ni ficha. Na ficha ma kwake, je suis caché en lui. Alléluia. Il est il est un refuge, l'Éternel notre Dieu. En lieu sûr. Sûr, j'ai regardé la définition du mot sûr. En fait, c'est un adjectif. Premièrement, j'ai pris juste quelques définitions. Le mot sûr ou l'adjectif sûr veut dire qu'il ne présente aucun risque. Il n'y a pas un assureur qui peut nous présenter l'assurance à tout risque. Il n'y en a pas. Quand quelqu'un meurt là, comment on l'a assuré? Il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu qui peut assurer, donner l'assurance donc à tout risque. Non, pas tout ce qu'on raconte là. On peut, bon, les biens, même toi-même, tu sais protéger, tu sais garder tes chaussures, non? Mais nous sommes dans un monde où les gens vont s'assurer leur montre, leur téléphone, assurance pour mon téléphone. Pourquoi? Je vais aller assurer mon téléphone. Mais sous d'autres cieux là-bas, ils assurent tout. Il assure même ses ustensiles de la cuisine. Mais ils ne savent pas assurer la vie. Non. L'assurance vie qu'ils ont, c'est que quand tu meurs, tu mourras, on va payer un peu d'argent à ta famille. Et moi-même, je suis parti. Vous ne m'avez pas assuré. Il n'y a que Dieu qui peut assurer ta vie. Et quand tu mourras sur cette terre, au moins dans l'éternité aussi encore, il te rassure une place là-bas. Amen, amen. J'ai entendu un chanteur qui chantait en Tchouloub et dit, tu achètes des maisons partout, même au Japon, mais tu n'as même pas un terrain vide au ciel. Ça, j'ai entendu. Il dit, tu n'as pas un terrain vide au ciel, mais tu as des maisons partout. Mais au ciel, tu n'as même pas un terrain vide. Est-ce que toi, tu as un terrain vide au ciel? Est-ce que tu as assuré ta place au ciel? Tu es en train d'acheter partout, maison gauche, droite, mais est-ce qu'au ciel tu as un terrain? Oh, bien-aimé, nous devons reconsidérer notre message. Amen. Oh, amen, amen. Donc, sûr, c'est qui ne présente aucun risque ou aucun danger n'est à redouter. Voilà ce que nous sommes en train, en fait, notre contexte, quand nous parlons en lieu sûr, c'est vraiment cette définition cadre. La deuxième définition, c'est ceci, on dit digne de confiance. Sur qui ou sur quoi l'on peut s'appuyer, tabler, qui ne risque pas de faillir. Voyez-vous, le sûr dont nous parlons ici ne peut faillir à sa mission. Jésus ne peut pas faillir à sa mission. Amen, amen. Jésus ne peut pas faillir à sa mission. Bien-aimés, plaçons-nous en Jésus-Christ. Amen, amen. Plaçons-nous en lui, car il ne peut pas faillir à sa mission, la mission d'assurer sécurité, d'assurer protection. C'est un lieu sûr qui rassure et met au large tout celui qui vient y réfugier. Jésus-Christ met au large. Oui, là vous y trouvez la sûreté de la vie. Et la sûreté veut dire le fait d'être sûr, l'assurance, la garantie donnée à quelqu'un. Voilà la sûreté. Christ seul peut te garantir une telle sûreté. Aucun homme, si puissant soit-il, ne peut le faire. Aucun homme. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs, ni ton président. Personne ne peut te donner une telle sûreté. Alléluia. Et même il y a plusieurs citoyens dans un pays qui meurent, même les bourgmestres ne savent même pas qu'ils sont morts. Si déjà les bourgmestres ne le savent pas, et c'est le président qui le saura. Mais Dieu sait que toi tu es mort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à Dieu que nous devons nous confier. Confions-nous à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Confions-nous au Seigneur, bien-aimé. Et il y a quelques lieux que j'étais en train déjà de souligner dans notre message. Notamment l'arche de Noé. Il est dit dans Genèse au chapitre 7. Genèse au chapitre 7, il est dit au premier verset que l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Il a vu comment? Juste parmi cette génération. Au chapitre 6, à partir du verset 14, il est écrit que Dieu s'adresse à Noé, il dit, d'abord je peux lire à partir du verset 13, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 17. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de parler ainsi, à Noé. Après l'avoir fabriqué, tu entreras, mais pas tout seul. Noé ne devrait pas entrer dans l'arche seul. Il a été trouvé juste. C'est lui qui a été trouvé juste. Suivez-moi très bien ce matin. Noé a été trouvé juste devant Dieu. Mais lorsque Dieu dit à Noé de construire l'arche, il dit, tu vas y entrer avec toute ta famille. Tu y entreras avec tes enfants, tes fils, les femmes de tes fils. Et tu vas y entrer avec certains animaux. Il lui a parlé, il faut prendre chaque père ainsi de suite pour entrer donc dans l'arche. Au verset 18, il est dit dans ce chapitre 6, il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce. Verset 20, des oiseaux selon leur espèce, etc., etc. Verset 21, et toi, prends de tous les animaux, de tous les aliments plutôt que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Pourquoi Noé doit-il être le seul à être épargné? Vous avez la réponse, non? Pourquoi doit-il être le seul à être épargné? Il nous a été dit au verset 7, au chapitre 7, la dernière partie du verset, on dit, car j'étais vu juste devant moi parmi cette génération. Amen, amen. Balaam, nous l'avons vu, a été incapable de maudire Israël dans Nombre 23, verset 21. Il a été dit quoi? Dieu ne voit pas d'iniquité au sein de ce peuple. C'est la seule raison qui a fait que Balaam soit incapable de maudire Israël. Alléluia. Il n'y avait pas d'iniquité en Israël. Et ici, il est dit que Dieu Dieu l'a vu juste devant lui, au milieu de cette, parmi la génération qui existait en ce temps-là. Noé a été trouvé juste. Il a été trouvé juste. Au verset 5 jusqu'à 9 du chapitre 6, nous sommes en train d'étudier ce qui est arrivé dans la vie de Noé. Au chapitre 6, verset 5 et le suivant, il dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » N'en est-il pas le cas aujourd'hui? Verset 6, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un dit « Amen ». Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était comment? Juste et intègre dans son temps.
Noé marchait avec Dieu. Bien-aimé, même en notre temps, il y a les restes des justes et d'hommes et de femmes intègres. Plaise à Dieu que nous soyons de ces restes-là. Est-ce que nous sommes de ces restes? Sommes-nous de ces restes? À cause de Noé, sa famille va être aussi épargnée. À cause de Noé, sa famille va être aussi épargnée. Mais qui a été trouvé juste et intègre? Noé. C'est Noé qui marchait avec Dieu. Je m'adresse à vous qui êtes parents. Êtes-vous une porte fermée ou une porte défoncée pour votre famille? Savez-vous que vous êtes la porte, parents? Vous ne réagissez pas? Oui. Êtes-vous une porte fermée ou une porte défoncée? Un bon père doit être une porte ouverte en certains moments, mais aussi une porte fermée en d'autres moments. En quel moment, en quelles circonstances tu dois être une porte ouverte? Une porte ouverte pour faire entrer la faveur, pour faire entrer la bénédiction, pour faire entrer la richesse. Mais porte fermée pour barrer la route à la puissance des ténèbres, pour barrer la route à l'activité de l'ennemi. La Bible dit que là où règne la bassesse, l'ennemi se promène librement et il frappe. La bassesse, c'est le péché. Oh, amen, amen. Papa, maman, êtes-vous une porte fermée pour empêcher à l'ennemi de venir frapper? Ou bien est-ce que vous êtes une porte ouverte? Oh, si j'ai posé la question, tout le monde dira, je suis une porte pour mes enfants. Je suis une porte. Non. Si tu pour connaître la nature de ta porte, ce que tu es, il faut analyser ta vie. Quelle sorte de vie tu mènes? Et tu sauras si tu es une bénédiction pour ta famille ou une malédiction. Tu sauras si tu es une solution pour ta famille ou est-ce que tu es un danger pour ta famille. Quel genre de porte es-tu? Noé, oh, combien j'aimerais être un père comme Noé. À cause de Noé, sa famille a été sauvée. Proverbe 14, 26 à 27 dit, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Je pensais que tu avais entendu ce que je viens de lire. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que ta vie reflète la crainte de l'Éternel? Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Le verset 26 est pris dans la version Semer, dit que celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. On ne dit pas que Jésus-Christ sera le refuge de tes enfants, mais toi qui crains Jésus, tu vas devenir un refuge pour tes enfants. Frères, sœurs, est-ce que nous sommes intelligents pour comprendre ces choses? Nous prouvons que nous sommes intelligents lorsque nous quittons cet endroit et notre façon de vivre change. Lorsque nous désirons, nous demeurons dans un lieu sûr, lorsque nous entrons et nous y demeurons. Et quand nous demeurons en lieu sûr, c'est comme si nous sommes entrés avec nos propres enfants. Jusqu'à ce que chaque enfant soit à même de prendre aussi une décision par lui-même. Et même quelquefois quand ils sont partis, tes enfants seront sauvés de plusieurs dangers à cause de la foi de papa et de la foi de maman. C'est à cause d'Abraham que son neveu Lot a eu la vie sauve. C'était à cause de la foi d'Abraham. Es-tu papa? Es-tu maman en lieu sûr? Là, je ne m'adresse pas encore aux enfants. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire quand nous présentons les enfants que les enfants ne sont pas qu'un privilège. Les enfants sont aussi une responsabilité. Et vous pensez que la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants se limite seulement à apporter du pain à la table, à apporter de l'eau, à donner le minerval? Non, bien-aimé. Il y a d'abord la responsabilité sur le plan spirituel. Oh, alléluia. Alléluia. Nous ne dormons pas toujours dans la même chambre avec nos enfants. Oh, quelque chose peut arriver, l'enfant crie. Le temps que tu arrives, c'est trop tard, n'est-ce pas? Mais si toi tu crains Dieu, celui que tu crains protégera les enfants. Je me demande si réellement je parle au cœur de quelqu'un. Noé, ses fils ont eu la vie sauve. Et j'aime bien ce passage de Proverbe 14. C'est l'un de mes passages favoris. Verset 26-27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, moi je te crains. Et mes enfants ont un refuge auprès de moi. Et il est écrit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Un tel homme a toutes les raisons d'avoir confiance. Amen, amen. Oui, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Détourner des pièges de la mort. Quand on forme des complots, toi tu n'es pas là. Tu ne sais même pas que les gens sont en train de comploter. N'est-ce pas? Quand Balaam et Balak étaient en train de comploter, Israël ne le savait pas. Bien-aimés, nous ne savons toujours pas. Mais ce qui peut nous assurer la protection, c'est la crainte que nous avons en Dieu. Amen, amen. Et Dieu, c'est comme là, ça ne sachant pas même ce qui arrive, Dieu lui-même s'est dit, « Oyo yanga boko simbate. » Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. C'est la crainte de Dieu qui te donne une place autour de la table du roi. Oh, amen, amen. C'est quel genre de table? C'est une table sans dimension. Parce qu'ils sont des multitudes qui viennent, mais chacun vient y trouver sa place. Ah, pour ceux qui craignent Dieu, chacun pour sa part a la place à la table du roi. Il y aura toujours une chaise qui t'attendra. Vous savez, dans le domaine de protocole, on place des noms là. Tel ministre va s'asseoir ici, telle personnalité va s'asseoir ici. Donc, quand les gens viennent, il ne va pas s'asseoir là où on a écrit Kabatumpi. Non. C'est réservé à Kabatumpi. Peu importe le temps, si Kabatumpi ne vient pas, la place là restera vide. Amen, amen. J'aimerais te dire que tu as une place autour de la table du roi. Mungu landanga na lingala. Mungu tangu yuza ko liaka na mesa na nkolo. Nani oya ko ya ko bako la yo na mesa na nkolo. Amemi yo boe, azo bendo na chemise boe. Nzambe parle bimbo boke ndenaye nazana ba ebele awa, je vais continuer à voir l'adoration de ceux qui restent. C'est comme ça que ça se passe. Toi tu es comme la prunelle de l'œil de Dieu. Ah, je pensais que je t'ai parlé hein. Tu es comme la prunelle de l'œil de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen, amen. Je venais de vous dire que tu fais l'actualité dans le cœur de Dieu. Tu es important. Tu as de la valeur. Mais est-ce que toi-même tu as compris la valeur que tu as auprès de Dieu? Oh, alléluia. Alléluia. Je disais qu'un tel homme a toutes les raisons du monde d'avoir confiance. Si Dieu est pour lui, personne ne peut efficacement être contre lui. Et Romains 8, 31 dit quoi? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il viendra d'où? Il n'a jamais, il n'est pas né. Amen, amen. Il n'est pas là. Qui sera contre toi si Dieu est pour toi? Maintenant, tu peux aussi renverser. Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Oh, je ne veux pas qu'il soit contre moi. Je veux qu'il soit pour moi. Quelqu'un a expliqué en disant que Dieu est juge. Et il est un juste juge. Ce n'est pas comme la justice du Congo, où celui qui a tort est justifié, celui qui devrait être justifié est condamné. Non. Quand Dieu te regarde, il te condamne parce que tu es injuste. Amen. Mais l'avantage avec Dieu, c'est quoi? Quand tu l'as choisi pour avocat, au fait, demain, c'est lui-même le juge. Il te condamne. Voilà comment ça s'est passé. Il t'a condamné. Toi, tu mérites la mort. Mais après, il enlève sa tenue de juge. Maintenant, il porte la tenue d'avocat. Il va de l'autre côté, à tes côtés. L'avocat se tient à tes côtés. La sentence est déjà tombée là. Maintenant, elle vit en tant qu'avocat et il te justifie. Et pour te justifier, lui-même paye le prix. Il verse de son propre sang. Si tu es intelligent, tu as compris ce que je suis en train de dire. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Bien-aimés, entrons en ces lieux sûrs-là. Entrons en lui. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Car les choses seront telles que, hors de l'arche, personne ne pourra tenir. Hors de l'arche, personne ne pourra tenir. L'arche est un type de Christ pour mettre son peuple à l'abri du jugement. Oui, pour mettre son peuple à l'abri du jugement. Et dans Hébreux chapitre 11, il est écrit au verset 7 ceci, que c'est par la foi que Noé divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Quelle ambiance pouvait régner dans l'arche? Vous pouvez vous imaginer? Quel temps faisait-il dans l'arche avant que le déluge ne vienne? Il devait faire chaud parce qu'au fait, ils sont entrés dans l'arche avant que il ne commence à pleuvoir. Ils sont entrés dans l'arche. Mais quelle ambiance y régnait-il là dans l'arche? On peut avancer toutes sortes d'imaginations, n'est-ce pas? Les conditions n'étaient pas forcément agréables dans l'arche. Elles n'étaient pas forcément intéressantes. Il pouvait y faire chaud. Ça pouvait sentir mauvais quelques temps après parce que les animaux qui sont entrés dedans ne pouvaient pas bien sentir bon. Mais en plus, non seulement qu'ils ne pouvaient pas bon sentir, mais ils pouvaient uriner les animaux. Vous savez les mpumbu ou les ntaba, mbali, quand ils urinent partout, vous pouvez rester à l'endroit où il est. Mais maintenant, ils sont dans l'arche avec vous. Ils sont là. Ça ne devait pas sentir... Mais quelles conditions pouvaient-ils donc qu'on pouvait avoir là dans l'arche? Ça ne devait pas être intéressant, disais-je. Ça ne pouvait pas être intéressant, il pouvait faire chaud, ça pouvait sentir mauvais. Mais l'arche, comme l'avait dit une fois ici le pasteur Pius, avait au moins le mérite d'être le seul endroit le plus sûr, le plus sécurisant. C'était dans l'arche. Parce que quand il a commencé à pleuvoir, certainement, ils se sont dit, non, mais la pluie, nous la connaissons. Il pleut, mais même si ça dure longtemps, c'est une journée. Mais une journée est passée. Il a continué à pleuvoir. 48 heures se sont passées. Il a continué à pleuvoir. L'arche était le seul endroit le plus sûr. Mais quelle devait être l'attitude de l'entourage, surtout les amis des enfants de Noé? Ceux qui sont dehors, on pouvait les entendre dire, mais Sem, vous êtes enfermés, vous manquez beaucoup de choses. Mouvement Zandé na Mopanzi Oyo, pouvait-il dire. Sem, Cham et Japhet, ne faites pas confiance à votre père, ce n'est qu'un vieux type qui a perdu la raison. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce qu'il dit là arrivera? Oh, Sem, la petite Jeannette qui ne voulait pas de toi, maintenant demande que tu puisses revenir. Sem, Cham, Japhet sont là. Ils entendent le discours des amis, n'est-ce pas? Ils sont dans l'arche. Peut-être qu'ils se retournent aussi vers leur papa et disent, papa, est-ce que tu as bien entendu? C'était toi-même? Ou bien c'était Dieu qui t'a parlé? Papa, est-ce que tu es sûr? Mais nous sommes... Tu entends tout ce qu'on dit là-bas, papa? Tu entends comment on se moque de nous? On ne se moque pas de toi? Parce que tu as abandonné le monde pour Jésus? Et on dit, au sota vie. Il faut leur dire, na sota vite, na sota de masumu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, Sem, Cham, Japhet. Et si ce n'était pas vrai, vous aurez beaucoup raté. Mais dites-le aussi, et si c'était vrai, que le déluge va venir? Et si c'était vrai, qui aura perdu? bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais et si c'est pas, et si ce n'était pas vrai que le ciel, qu'il n'y avait pas d'enfer? Et si ce n'était pas vrai? Mais il faut retourner la question, et si c'était vrai? Nous n'aurons rien perdu, n'est-ce pas? Nous n'aurons rien perdu. Si c'était vrai, or c'est vrai que l'enfer et le ciel existent. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Sem, Cham, Japhet, rester dans l'arche, c'est le seul endroit sûr. Sortir de là, c'est signer votre arrêt de mort. Restez dans l'arche. Bien-aimés, restons, c'est le lieu sûr. La Bible présente Noé comme étant un prédicateur de la justice. Un prédicateur de justice dans 2 Pierre, verset 2, qui dit chapitre 2 et le verset 5, il dit que si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Bien-aimés, mais quel genre de prédicateur avons-nous aujourd'hui? Noé restait ferme dans sa prédication vis-à-vis de ses enfants, d'abord vis-à-vis de ce monde, en disant « Sauvez-vous !» Mais il s'est moqué de lui. Quand certainement, peut-être que c'est moi qui insinue, et que peut-être que ses enfants lui ont interrogé, il a dit « Mes enfants, entendez ce que je vous dis, j'ai entendu Dieu me parler, je sais comment il parle, Dieu a parlé, restons ici, ne regardez pas aux conditions que c'est fait, qui fait le temps qu'il fait dans cette arche, mais restez là, parce que le déluge tombera. » Restons là, nous sommes dans l'endroit le plus sûr. Restons là. Et Kali est en train de crier à tous ceux qui viennent dimanche après dimanche à la parole de Dieu que vous avez trouvé les lieux sûrs. Et ces lieux sûrs s'appellent Jésus-Christ le juste. Restez-y et vous serez sauvés. Restez en Christ. Et si vous n'êtes pas entré en Christ encore, entrez-y aujourd'hui et vous serez rachetés. Vous serez sauvés. Le monde passe, sa convoitise aussi passe. Bien-aimés dans le Seigneur, quel genre de prédicateur avons-nous aujourd'hui? Et quel message nous donne-t-il? Quels sont, bien-aimés, quels sont les sons? Je parle du son, les résonances du son. Quels sons des trompettes, de la trompette font-ils entendre? Quels sont? Où sont les sentinelles? Où est la sentinelle qui doit avertir le monde? Où est la sentinelle qui va dire aux gens, faites attention, le temps me manquerait peut-être dimanche qui va suivre, on va venir. La Bible dit qu'au temps de Noé, les gens se mariaient, mariaient leurs enfants, ils mangeaient. Personne ne s'est douté de rien. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Personne ne se doute de rien. Chacun vit selon sa philosophie. On se moque de la loi de Dieu. On se moque de Dieu. Personne ne s'est douté de rien au temps de Noé. Et puis, vint le déluge. Il viendra comme un voleur, celui que nous attendons. Jésus-Christ le juste. Alléluia. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Frères et sœurs, il viendra comme un voleur dans la nuit. Restez. Vous êtes en lieu sûr. Il est le rocher des âges. Il a dit à Moïse, je te placerai dans les creux du rocher. Alléluia. Je te placerai dans les creux du rocher. Et tu vivras ma gloire. Je te placerai dans les creux. Dans les creux du rocher. Et Jésus-Christ est le rocher des âges. Et nous avons été placés dans son creux, dans les creux. Dans les creux de son rocher. Nous sommes dans un lieu sûr. Amen, amen. J'ai fini par cette image. Lorsque Dieu devrait frapper les premiers-nés des Égyptiens, il a dit aux Israélites, vous placerez le sang sur les linteaux de vos portes. Le sang de l'agneau que vous allez égorger, que vous allez manger avec de l'herbe amère et debout comme en fuyant. Vous allez placer le sang sur le linteau. Moi, j'enverrai l'ange destructeur. Quand l'ange destructeur viendra, quand il verra le sang, il passera. Il passera outre vos maisons. Donc vos maisons deviendront comme des lieux de sécurité, des lieux de protection. Pas seulement parce que ce sont vos maisons, mais à cause du sang. Ce n'est pas la maison qui va impressionner l'ange, mais c'est le sang qui va. Quand il voit le sang, on dirait que ses yeux s'ouvrent. Mais les yeux sont fermés, partout il n'y a pas le sang, il frappe en désordre. Mais dès qu'il voit le sang, on dirait que les yeux de l'ange s'ouvrent. Il dit non, ici je ne dois pas passer, je peux frapper. Il dit que l'ange verra le sang et il passera outre. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour toi, qui fera que tu ne sois pas atteint. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons nous arrêter avec ce sujet. Lève-nous pour acclamer le Seigneur notre Dieu. Je t'ai demandé d'acclamer Dieu. Alléluia. Honorons-le par nos acclamations. Alléluia. Disons-lui tout notre amour. Acclame encore Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, gardons silence devant le Seigneur. Vous savez, il y a même plusieurs qui n'ont pas eu besoin de la délivrance. Non pas parce qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas liés avant de venir au Seigneur, mais parce que simplement ils sont entrés dans les lieux de refuge, ils ont accepté la vérité et les chaînes sont tombées. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois au ministère de la délivrance. Et je délivre les gens, je prie pour la délivrance des gens, c'est Dieu qui délivre. Mais je ne crois pas en un truc systématique pour commencer à délivrer tout le temps les gens. Oh non, non. Je ne vais pas jouer à ce théâtre-là. Mais je crois que Jésus-Christ délivre véritablement. Mais si tu es en Christ, le destructeur passera outre. Il ne t'atteindra pas. J'aimerais simplement, alors que nous acclamons le Seigneur, que nous nous mettions simplement à crier, je vais demeurer en toi, Seigneur. Je ne vais pas sortir. Je vais demeurer en toi. Dis-le à Dieu. Prends cet engagement. Chantez, je voudrais.
Je voudrais devenir un torrent. Dans les eaux couleront
à jamais.
Saint-Esprit,
oui.
Et dans mon cœur. Faites mon être ta demeure.
Avec fidèle de tout le temps.
Je voudrais
un torrent
dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit,
oui,
inonde mon cœur,
inonde mon cœur,
et mon être ta demeure.
Nous acclamons très très fort le Seigneur notre Dieu et reprenons nos places. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Quelqu'un dit après moi, en lieu sûr. Est-ce que tu peux le dire encore, en lieu sûr? Demeurons en lieu sûr. Il y a des avantages pour ce temps présent, mais il y a aussi des promesses pour le temps futur. Amen.